Bien, mesdames, messieurs, nous poursuivons donc cette seconde journée sur le thème de la neutralité du politique. Alors, le sujet a déjà été abordé à travers le thème de l'impôt avant la pause. Et donc, nous sommes un petit peu en retard. Donc, sans perdre plus de temps, je passe immédiatement la parole au premier intervenant. Alors, c'est toujours un petit peu désagréable de commencer à parler quand tout le monde n'est pas encore là, mais c'est pas grave. Hein ? De toute façon, voilà. La neutralité de la commande publique par Étienne Muller, qui est donc, lui, professeur à l'Université de Strasbourg. N'est-ce pas, Nicolas ? Merci beaucoup. Allez.
La notion de neutralité employée à propos de la commande publique revêt habituellement une acception très proche de celle de neutralité de l'impôt, qui a été envisagée tout à l'heure, dont elle partage les soubassements idéologiques. À l'instar de la neutralité en chimie, qui est la propriété d'un corps de ne susciter aucun phénomène électrique ou magnétique susceptible d'influer sur son environnement, la neutralité dont il est question ici signifie que la commande publique ne devrait pas entraîner de distorsion dans le fonctionnement de l'économie de marché. Plus précisément, d'un point de vue économique, la commande publique est neutre lorsque elle n'entraîne aucune charge excédentaire par rapport à la valeur de marché des prestations achetées par les personnes publiques. En termes plus politiques, la neutralité ainsi conçue constitue donc clairement une doctrine anti-interventionniste. Elle traduit en effet une opposition de principe à ce que les personnes soumises au droit de la commande publique poursuivent dans le cadre de leurs achats de travaux, de fournitures ou de services, des objectifs qui excèdent la seule satisfaction de leurs besoins. Pour reprendre la formule utilisée par le commissaire du gouvernement Pivetot, qui, dans ses conclusions sur un arrêt commune de Gravelines de 2001, a qualifié la neutralité de principe tout à fait essentiel du droit des marchés publics, ce principe signifierait que la dépense publique qui s'effectue à l'occasion d'un marché ne doit pas être l'instrument d'autre chose que de la réalisation du meilleur achat au meilleur coût. Ainsi formulé, la neutralité fait écho à une tendance bien réelle du droit de la commande publique, qui est d'obliger les personnes publiques et les organismes qui en dépendent à adopter, dans le cadre de leur marché public et des concessions et de leurs concessions, une certaine rationalité économique. Selon une expression que la Cour de justice a utilisée à de multiples reprises depuis un arrêt à University of Cambridge de 2000, l'objectif du droit de la commande publique est notamment d'éviter que les personnes qui y sont soumises fassent prévaloir, je cite, « des considérations autres qu'économiques » dans le choix de l'attributaire. Encore faut-il s'interroger un peu sur ce que l'on entend par « économique » dans cette phrase. On est souvent tenté, suivant un raccourci que d'ailleurs la Cour de justice elle-même a souvent emprunté, d'assimiler un peu trop vite l'économie au seul mécanisme du marché. Et c'est à cette conception que se rapporte la neutralité de la commande publique telle que l'a envisagée Denis Pivetot dans les conclusions que j'ai citées tout à l'heure. L'accent est alors mis sur la protection du marché vis-à-vis de personnes publiques toujours suspectes du fait de leurs privilèges exorbitants de pervertir son fonctionnement prétendu normal. Mais on peut aussi opter pour une acception plus large des considérations économiques qui doivent guider le choix des personnes publiques dans les contrats qu'elles concluent avec des opérateurs économiques en y faisant entrer des considérations relativement étrangères aux mécanismes de marché. Par exemple, lorsqu'une personne publique impose que l'attributaire du marché lui fournisse du café labellisé « commerce équitable », peut-on dire qu'elle se laisse guider par des considérations autres qu'économiques ? Comme le faisait observer, non sans humour, l'avocat général Julian Cocotte dans ses conclusions sur l'arrêt de la Cour de justice Commission contre Pays-Bas de 2012, certes, le goût du café ne change pas, mais, je cite, « un produit qui a été commercialisé dans des conditions injustes laissera un goût amer dans la bouche d'un client conscient de ses responsabilités sociales ». On le voit, tout le problème de cette neutralité de la commande publique, que certains voudraient ériger en principe, c'est qu'il est extrêmement délicat d'identifier le stade où s'arrête la neutralité de l'achat public et où commence l'interventionnisme. Plus fondamentalement, le problème est ici celui de la rationalité économique, qu'il est toujours artificiel de prétendre séparer des autres considérations sociales. Au total, cette idée de neutralité économique de la commande publique, telle du moins que l'a formulée Denis Piveteau, paraît d'emblée assez faiblement convaincante, et il n'est dès lors pas étonnant qu'elle n'ait opposé qu'une résistance assez faible aux velléités interventionnistes. Et c'est pourquoi il paraît aujourd'hui clair que la neutralité économique de la commande publique est battue en brèche. Pourtant, si l'on examine les choses d'un peu plus près, on constate que les difficultés que cette idée de neutralité économique visait à régler de façon sans doute trop radicale, ces difficultés demeurent et qu'elles sont même considérablement amplifiées par la multiplication des objectifs interventionnistes de la commande publique. De sorte que, dans un second temps, on peut se demander s'il n'y aurait pas lieu d'envisager tout de même un principe de neutralité de la commande publique, à condition de lui donner un autre sens que celui d'une neutralité purement économique. En première analyse, donc, les évolutions du droit de la commande publique semblent sonner le triomphe de l'interventionnisme sur la neutralité de la commande publique. De façon un peu contre-intuitive, c'est la Cour de justice de l'Union européenne qui a œuvré en ce sens, en déjouant les tentatives de la Commission européenne d'affirmer une neutralité économique de la commande publique, neutralité dont le Conseil d'État s'était fait l'apôtre fervent avant d'y renoncer dans la période récente. La capitulation du Conseil d'État sur ce point est constituée par un arrêt département de l'Isère de 2013, par lequel le Conseil d'État admet qu'un critère de sélection des offres relatif à l'insertion professionnelle des publics en difficulté pouvait être légalement utilisé dans le cadre de l'attribution d'un marché public portant sur la réfection d'une chaussée, dès lors qu'un tel contrat était, je cite, « susceptible d'être exécuté, au moins en partie, par des personnels engagés dans une démarche d'insertion ». En adoptant une telle solution, le Conseil d'État est revenu sur sa jurisprudence antérieure, illustrée notamment par l'arrêt commune de Gravelines de 2001, dans lequel il avait jugé au contraire qu'un critère d'attribution relatif aux propositions faites par les soumissionnaires en matière de création d'emploi était illégal, car dépourvu de tout lien avec l'objet d'un marché public de travaux. Ce faisant, le Conseil d'État a donc fini par se ranger à la conception large, défendue par la Cour de justice, de l'exigence, expressément imposée par les directives depuis 2004, que les critères d'attribution et les conditions d'exécution du marché aient un lien avec son objet. Cette conception large, la Cour de justice l'avait promue dès 2002 dans un arrêt Concordia Bus Finland, en indiquant, à propos d'un marché de transport urbain, pour l'attribution duquel les candidats pouvaient obtenir des points supplémentaires en proposant des solutions pour minimiser les émissions de gaz et le niveau sonore des autobus, que le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse ne devait pas correspondre exclusivement à la recherche d'un intérêt économique direct pour le pouvoir adjudicateur, mais pouvait intégrer d'autres préoccupations, en l'occurrence des préoccupations environnementales. 10 années plus tard, dans un important arrêt de 2012, Commission contre Pays-Bas, la Cour a explicité et prolongé sa position à propos cette fois de la possibilité pour sélectionner l'attributaire d'un marché public de fourniture de café et de thé d'utiliser un critère faisant référence au label bio et commerce équitable. Alors plus que le label bio, ce qui posait un problème délicat en l'espèce, c'était le label commerce équitable, parce qu'il ne concerne pas une caractéristique du produit, il concerne les conditions dans lesquelles l'attributaire potentiel du marché va se procurer le produit auprès des fournisseurs. Eh bien, la Cour estime, contre l'avis de la Commission, que le lien avec l'objet du marché qui conditionne la régularité des critères de choix n'implique pas qu'il porte exclusivement sur une caractéristique intrinsèque du produit, et que ces critères peuvent même viser à protéger les intérêts de personnes autres que les utilisateurs ou les bénéficiaires des prestations qui font l'objet du marché. Ainsi, il semble que par l'interprétation large qu'elle en donne dans ses arrêts, Concordia Bus et Commission contre Pays-Bas, la Cour neutralise quelque peu, si je puis dire, l'exigence d'un lien avec l'objet du marché, introduite à l'initiative de la Commission, qui, elle, en avait une conception beaucoup plus stricte, puisque dans sa communication de 2001 sur les aspects sociaux des marchés publics, la Commission estimait au contraire qu'un critère de choix devait nécessairement évaluer les qualités intrinsèques des prestations. Et désormais, c'est bien la conception large de ce lien avec l'objet du contrat que semblent consacrer les textes. En effet, les articles 38 et 52 de l'ordonnance de 2015, qui transpose la directive marché de 2014, ces articles réputent liés à l'objet du marché tout critère ou condition d'exécution qui se rapporte aux prestations objet du contrat, même lorsqu'il ne ressort pas de leurs caractéristiques intrinsèques, et y compris lorsqu'il consiste en des facteurs intervenant dans la commercialisation des produits. Le prétendu principe de la neutralité de la commande publique semble donc avoir vécu une bien courte vie, et à vrai dire, on peut même se demander s'il n'était pas mort-né. Au moment même où il le formule dans ses conclusions sur l'arrêt commune de Gravelines, le commissaire du gouvernement Pivetot ne se cache pas de proposer une solution qui est non seulement plus sévère que la jurisprudence de la Cour de justice, mais encore à contre-courant des volontés du gouvernement et de l'évolution des textes. Pourtant, il faut se garder de minorer les préoccupations auxquelles ce principe mort-né de neutralité économique visait à répondre, et à bien y réfléchir, on peut se demander si une certaine exigence de la neutralité de la commande publique ne conserve pas son sens, à condition d'être envisagée de façon plus large qu'une simple neutralité économique. On peut sans doute expliquer en partie la sévérité de la solution qui avait été celle de l'arrêt commune de Gravelines en 2001 par un attachement presque viscéral du Conseil d'État au libéralisme économique, attachement qui, comme on sait, s'est exprimé de façon tout à fait classique dans la fameuse jurisprudence chambre syndicale du commerce de détail de Nevers de 1930. Mais cette solution sévère et désormais caduque traduisait également, et peut-être plus fondamentalement, le souci d'imposer aux personnes publiques une certaine discipline dans leurs interventions. Que la commande publique ne soit pas strictement et exclusivement vouée à la satisfaction des besoins matériels des personnes publiques et des organismes qu'elle contrôle, qu'elle puisse viser aussi des objectifs de protection de l'environnement et d'insertion sociale, et qu'elle puisse constituer ainsi un moyen au service de politiques publiques en la matière, la cause paraît entendue. Depuis les années 90, d'abord par le biais de nombreuses circulaires, puis à travers les réformes successives du droit de la commande publique, qui trouvent leur dernière expression dans l'ordonnance de 2015 et dans son décret d'application, les préoccupations sociales et environnementales ont fait leur apparition à presque tous les stades de la procédure de passation des marchés publics. On a évoqué les critères de sélection et les conditions d'exécution du marché, mais la prise en compte de ces objectifs de développement durable s'impose en amont dès le stade de la définition des besoins, article 30 de l'ordonnance, et l'objet lui-même du marché peut présenter des caractéristiques d'ordre environnemental ou sociétal qui désormais peuvent être déterminées par la référence à des labels. C'est ce que prévoit l'article 10 du décret de 2016. On peut cependant observer que ces préoccupations sociales et environnementales reflètent une politique particulière, celle du développement durable, lequel, pour reprendre les termes de l'article 6 de la Charte de l'environnement, consiste à concilier la protection de l'environnement, le développement économique et le progrès social. Et dans son arrêt Commission contre BIBA de 2012, la Cour de justice relève d'ailleurs qu'en vertu de l'article 11 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le développement durable doit être pris en compte dans toutes les politiques de l'Union européenne. Or, que de telles préoccupations soient considérées et dans une certaine mesure consacrée par les textes comme des objectifs légitimes de la commande publique, ne signifie nullement que les personnes publiques pourraient désormais se servir de la commande publique comme d'un instrument au service de n'importe quel objectif d'intérêt général. Tout d'abord, si, comme on l'a montré, c'est une conception large du lien des critères de choix et des conditions d'exécution avec l'objet du contrat qui s'est imposé, cette condition est tout de même loin d'avoir été totalement vidée de son sens. Ainsi, toujours dans ce même arrêt Commission contre Pays-Bas de 2012, avant de considérer que l'exigence d'un label commerce équitable est liée à l'objet du contrat, la Cour prend soin de relever que ce label visait uniquement les ingrédients à fournir dans le cadre du marché, sans aucune implication quant à la politique générale d'achat des soumissionnaires. En d'autres termes, comme l'a précisé l'avocat général Julien Cocotte, la solution aurait été différente si, au lieu de se borner à exiger que les ingrédients à fournir soient labellisés, le pouvoir adjudicateur avait exigé que l'attributaire potentiel distribue exclusivement des produits labellisés. Dans le même sens, dans un arrêt Société de Richebourg que le Conseil d'État a rendu en 2013, pratiquement au même moment que l'arrêt département de l'Isère, le Conseil d'État a jugé qu'il était irrégulier, faute toujours d'un lien suffisant avec l'objet du marché, un critère relatif à la politique sociale de l'entreprise et à la formation des personnels. Et récemment, l'Eurométropole de Strasbourg s'est proposé de financer les recherches d'un doctorant dans le cadre d'une convention CIFRE sur des questions de savoir si l'Eurométropole pouvait prétendre écarter de ses contrats des entreprises qui adopteraient un comportement fiscal qui ne correspondrait pas à une certaine éthique parce qu'elles pratiqueraient l'évasion fiscale, etc. Alors, je n'ai pas cru devoir décevoir d'emblée de telles vérités, mais il n'est pas absolument pas certain que ça puisse être considéré comme un objectif pouvant légitimement être pris en compte. Cela rejoint au fond l'idée exprimée par des arrêts assez anciens, comme l'arrêt Société Vaner-Isophie de 1987, qu'un critère de choix ne doit pas introduire entre les offres concurrentes une discrimination qui n'est pas en rapport avec l'objet de la réglementation des marchés publics. Alors encore, faudrait-il préciser que l'article 1er de l'ordonnance de 2015 mériterait à cet égard d'être réécrit, puisqu'il énonce toujours que les principes de la commande publique visent seulement à assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics, alors qu'ils font de toute évidence une place à d'autres objectifs, ceux du développement durable, donc les préoccupations environnementales et sociales. Mais indépendamment de cette critique du texte, il y a peut-être là l'expression de l'exigence d'une certaine neutralité de la commande publique, qui n'est pas nécessairement une neutralité économique, mais qui vise à éviter que les différentes catégories de personnes publiques et d'organismes qu'elles contrôlent n'instrumentalisent la commande publique pour mener toutes sortes de politiques, y compris en contournant, et c'est particulièrement important aux yeux du Conseil d'État à mon avis, y compris donc en contournant, s'agissant des collectivités territoriales, les règles de compétence qui visent à rationaliser les interventions économiques des collectivités territoriales. Je vous remercie.
Merci beaucoup, chers collègues, pour cette intervention très intéressante. Alors, j'aurais mille choses à dire, mais je ne veux pas anticiper le débat de tout à l'heure.